Alors bonjour, bienvenue à ceux qui sont sur Internet, qui nous écoutent soit en audio, soit en audiovisuel. Merci d'être là avec nous, merci à ceux qui sont là en salle. Et puis, pour aujourd'hui, on va voir ensemble la deuxième et la dernière partie du survol du livre de Philémon, écrit par l'apôtre Paul. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, eh bien, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est l'approche diplomatique. La semaine dernière, ou la dernière fois qu'on s'est rencontrés, je devrais dire, pour parler de ce sujet-là, eh bien, il était question de faire passer le morceau. Comment l'apôtre Paul s'est pris pour faire passer un morceau qui était difficile à passer? Et il l'a fait avec extrêmement de doigté et de délicatesse. Et là, on va voir la deuxième partie, qui est différente, mais qui est une suite, une continuité logique. Eh bien, là, il ne sera pas question de faire passer le morceau, mais de faire digérer le morceau. Et donc, dans cette lettre de Paul à Philémon, qui était un de ses amis, un homme qui, justement, accueillait l'Église dans sa maison, donc c'était un homme qui était riche, qui était bien nanti, il avait des ouvriers, il avait des esclaves, et il prenait soin de l'Église. C'était un homme bon, et comme on l'a vu la semaine dernière, c'était un homme qui avait comme mission ou comme rôle, au travers de sa personne, de tranquilliser, d'amener du repos, de soulager des gens. Il était caractérisé par ça. Et moi, je me souviens d'un homme, au tout début de ma vie chrétienne, en 1984, j'avais quelques semaines tout au plus dans le Seigneur, et quelqu'un me présente un pasteur qui venait des États-Unis nous visiter. Pasteur Jerry Doherty. Et savez-vous quoi? L'effet que ça l'a fait sur moi, juste quand il m'a serré la main et a dit « Hi! » Ce qui dégageait, je suis arrivé, j'étais en paix. Il communiquait, il transpirait la paix. C'était pas quelque chose qui était imitable. Il essayait pas d'être en paix. Il était en paix, puis ça se sentait, ça se dégageait. Et je pourrais vous dire que c'est l'exemple le plus proche que j'ai de ce que pourrait être, de ce qu'a pu être, Philémon. Alors, le thème central de cette lettre-là, comme on l'a vu la dernière fois, c'était de réintégrer un esclave fugitif ou fautif, oui, fugitif également, comme un égal. Paul écrit une lettre pour dire, je veux que tu le reçoives comme si c'est un de tes égales, c'est ton frère maintenant, c'est plus ton esclave, c'est plus ton ouvrier. Et pour nous, on peut trouver ça étrange, un esclave. Est-ce que aujourd'hui, vivre l'esclavage, pour nous, ça veut dire ah, ça c'était dans l'ancien temps, ça c'était dans l'Antiquité. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y en a encore aujourd'hui des esclaves. Puis des esclaves, il n'y en a pas seulement en Afrique ou dans le Moyen-Orient ou en Asie ou dans les peuples reculés. Mais tout récemment, on entendait parler dans les nouvelles d'un homme qui s'appelle Steve Maman. Steve Maman, lui, voulait libérer des esclaves tout récemment. Mais il y a une controverse autour de lui. Est-ce que c'est tout vrai ce qu'il dit? Est-ce que son organisation, elle est en règle? Et il y a eu un doute au travers de ça. Mais le doute n'était pas sur le fait qu'il y avait des esclaves qui veut libérer ou prétendument, ou qui avait la prétention de les libérer. Je ne sais pas si ses motifs sont tout à fait purs. Mais ce Steve Maman-là était quand même impliqué médiatiquement pour dire il faut faire quelque chose pour libérer ces esclaves, des esclaves sexuels capturés par l'État islamique. Et c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui. Des jeunes filles sont capturées et deviennent des esclaves à ces terroristes. On pouvait voir dans les derniers jours ça dans la presse. Encore plus près de nous. On va dire, oui, mais ça, l'État islamique, c'est des terroristes. C'est normal qu'ils fassent c'est pas normal qu'ils prennent des gens pour les mettre en esclavage, mais quand on comprend leur mentalité, on peut comprendre qu'ils vont jusque-là dans le mal, même si c'est pas acceptable. Mais savez-vous quoi? Tout récemment, le 2 septembre, c'est pas si loin que ça, là. le 2 septembre, il y a deux filles de 16 ans qui ont été invitées chez un couple qui était plus âgé. L'homme, je crois, qui était dans la trentaine et la fille était un peu plus jeune. Mais ils ont saoulé et drogué ces deux filles-là puis en ont fait des esclaves sexuels. Ils les ont attachées puis ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu avec elles. Et donc, c'est un phénomène qui est près de nous. Et tout le concept d'esclave, c'est un concept pour bien comprendre comment que ça se vivait là-bas. C'était dans la Rome antique, c'était pratiqué, et puis c'était quand même monnaie courante d'avoir des esclaves, spécialement quand on était riche. Et puis, Rome pratiquait l'esclavage comme d'autres peuples antiques. Le latin disposait évidemment d'un terme pour décrire ou désigner l'esclavage, servus, qui a conduit au terme servile et servilité, relatif à l'esclave et à sa condition. Et quand on voit l'étymologie du mot, d'où vient ce mot-là? Les esclaves étaient à l'époque de Paul considérés comme des gens serviles, même si parmi ceux-là, il pouvait y avoir des gens intelligents. On les traitait comme s'ils ne l'étaient pas. On les traitait comme une bête dans beaucoup de cas. Pas dans tous les cas. Il y avait des maîtres qui étaient bons. Même la parole de Dieu disait on voyait dans l'Ancien Testament que si un esclave aimait son maître et voulait travailler pour lui, à partir de la 7e année, il pouvait revenir ou partir. Il avait le choix. Mais en dehors du peuple juif, il ne se soumettait pas à cette exigence-là. L'esclavage a mis du temps avant d'être aboli. Et aujourd'hui, il est supposé être officiellement banni par le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Mais malheureusement, il ne suffit pas d'interdire quelque chose pour enrayer sa pratique. Et quand on pense à ceux qui sont des esclaves à travers le monde, que ce soit des esclaves sexuels ou des esclaves qui sont aux prises de bourreaux, peu importe, eh bien, on peut rendre grâce à Dieu dans la condition où est-ce qu'on est ici. On pourrait définir l'esclavage comme étant la condition d'un individu privé de sa liberté qui devient la propriété exploitable et négociable comme un bien matériel d'une autre personne. C'est comme ça aujourd'hui et c'était comme ça à l'époque de l'apôtre Paul. Être privé de sa liberté et cette personne-là était la propriété du maître. Et il n'y a personne dans une condition d'esclave quand il réalise qu'il est la propriété de son maître, qui peut vivre des moments heureux et vivre une joie débordante. Mais l'apôtre Paul ne veut pas réintégrer Onésime, cet esclave-là, auprès de Philémon pour qu'il redevienne un esclave, mais pour qu'il redevienne un égal, pour qu'il soit traité comme son égal. Et c'est tout le doigté parce que Paul est en train de refaçonner toute une mentalité. Il sait qu'il va faire face à un mur. Il sait que ça va y prendre beaucoup de doigté. Et en quelques phrases, en quelques mots dans une lettre, l'apôtre Paul réussit avec tellement de délicatesse à faire passer son message. Et maintenant, on est à l'étape où est-ce qu'il doit le faire digérer. Et donc, dans la première partie, eh bien, on a vu que Paul a renforcé les prérequis, il a dévoilé ses motifs, il a préparé le terrain, il a dévoilé la situation. Et il a mis en valeur Onésime, cet esclave-là, puis il a démontré qu'il connaissait son interlocuteur, Philémon. De la façon qu'il l'a approché, il voulait le mettre en confiance, le rassurer. Je suis pas contre toi, pardon. Ce que j'essaie de te faire passer, Philémon, c'est quelque chose que je sais que tu vas résister, tu vas avoir de la difficulté. Et pour moi, je peux vous dire une chose, c'est comme... Je dois continuellement revenir à ça parce que, écoutez, j'ai été éprouvé, moi, la semaine dernière. J'enseigne la première partie, puis là, je dis, wow, quel exemple, hein, l'apôtre Paul. Et moi, la semaine dernière, il y a un de mes amis de longue date, un bon ami, qui commence à me rentrer dedans sur Facebook. Fait que je lâche mon clavier, je prends le téléphone, puis je dis, mon cher ami, j'ai trouvé ça cheap en tabarouette ce que tu as fait. Fait que si tu veux m'en parler, appelle-moi, je suis disponible sur ce ton-là. Tu sais. Et puis quand j'ai raccroché, il y a une petite voix qui me disait, l'approche diplomatique, Eric. Là, j'étais là, oh, qu'est-ce que je viens de faire là? Et de réagir sur l'élan de l'émotion, c'est jamais une bonne chose. Mais on dirait que ça me faisait du bien, là, juste le sortir dans l'émotion. Je voulais y communiquer. Je disais, regarde, ce que t'as écrit là, publiquement, là, c'est ça que ça me fait. Mais c'était pas la bonne façon. Mais gloire à Dieu, lui a été sage, puis il m'a appelé en riant, puis il a dit, ouais, comme ça, t'es pas mal fâché, mon ami. Fait que juste ça, ça a comme ouf, détendu l'atmosphère. Là, on dirait que ma mâchoire était plus slack, tu sais. Slack de slackos, qui veut dire plus relâché. Et puis, et donc, comment Paul a-t-il abordé cet homme blessé qui est Philémon pour faire digérer le morceau? Eh bien, il s'est responsabilisé en tant que demandeur. Il a mis en lumière son interlocuteur, Philémon. Il a formulé sa demande d'une façon claire et concise. Il n'a pas tourné autour du pot. Mais il n'a pas tourné autour du pot. Pourquoi il n'a pas eu besoin de tourner autour du pot? Parce qu'il avait bien préparé son message. Il a valorisé la vérité, puis il a terminé sur une bonne note, sur une note amicale. Et c'est pourquoi j'aimerais, encore une fois cette semaine, pour des raisons de fluidité, parce que pour une lecture publique, la parole vivante d'Alfred Kuhn est une bonne traduction pour lire en public. Eh bien, j'aimerais vous lire le chapitre 1, des versets 17 à 25 de la lettre à Philémon. Alors, c'est pourquoi je l'ai mis à l'écran. Alors, avant qu'on lise ce passage des Écritures, j'aimerais vous inviter à ce qu'on puisse se recueillir. Et puis, se recueillir pour simplement pour que notre cœur soit disposé à être à l'écoute de qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de ce passage des Écritures. Vous savez, tout au long de la semaine, il y a peut-être un segment de ce message-là que vous allez ruminer, vous allez méditer, vous allez réfléchir dessus dans votre voiture ou dans un moment de tranquillité. Eh bien, pour ça, c'est important que toute notre concentration soit sur ce que Dieu dit et sur ce qui va être enseigné aujourd'hui. Recueillons-nous, s'il vous plaît. Père, ta parole, elle est riche, elle est grande, tu dis de ta parole qu'elle est pénétrante, elle pénètre nos cœurs, elle va même séparer nos pensées de nos sentiments. Elle met en lumière, elle peut guérir, elle peut corriger. Mais Seigneur, ce qu'on veut, c'est être à ton écoute, avoir un cœur pleinement disposé. Et c'est pourquoi on veut te remettre toute préoccupation, tout souci qui pourrait nous empêcher d'être concentrés sur ce que tu veux nous dire à chacun de nous ce matin. Et moi, je veux te rendre grâce, Seigneur, que tu choisis des gens imparfaits pour te servir, parce qu'au bout de la ligne, c'est toi qui dois être glorifié. On te remercie dans le nom de Jésus pour ta parole si riche, si précieuse. Amen. Amen. Donc, si tu me tiens toujours pour ton ami, accueille-le comme tu me recevrais moi-même. Si tu estimes avoir été lésé par lui ou s'il te doit quelque chose, porte-le sur mon compte. J'écris ce qui suit de ma propre main pour servir de reconnaissance de dette. Moi, Paul, je m'engage à rembourser ces dettes. Je ne veux pas te rappeler ici que tu es toi-même mon débiteur et que tu me dois tout ce que tu es. Oui, frère, puisque nous sommes unis dans le Seigneur, j'aimerais bien en profiter pour te demander le service de l'accueillir. Fais-moi ce plaisir. Tranquillise mon cœur pour l'amour de Christ. Je t'adresse cette lettre dans la ferme conviction que tu répondras à mes désirs. J'ai pleine confiance en toi. Je suis moi-même persuadé que tu feras encore plus que je ne demande. J'ai encore une requête. Prépare-moi ta chambre d'amis. J'ai bon espoir de voir bientôt vos prières exaucées et de pouvoir revenir chez vous. Épaphras partage ma captivité à cause de Christ. Il te fait bien saluer. Tu as aussi les salutations de Marc, d'Aristarque, de Démas et de Luc, mes collaborateurs. Je prie Jésus-Christ le Seigneur de vous accorder sa grâce pour qu'elle vivifie votre esprit. Avant d'entrer dans le texte, j'aimerais vous partager quelques commentaires d'un auteur qui s'appelle John Maxwell. Et lui, il a pris la parole de Dieu, la Bible, et il a mis des commentaires sur toutes les notions de leadership ou de leadership qu'on retrouve dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et tout ce qui touche le travail d'équipe, tout ce qui touche, la gestion, et tout ça pour voir, parce que la Bible parle de leadership. Vous savez, moi j'ai étudié, quand j'ai fait ma maîtrise en administration de l'éducation, j'ai étudié le leadership, et c'est incroyable, parce que quand on regarde le leadership aujourd'hui, il y a trois mots qui caractérisent le leadership. L'édification, l'encouragement, la collaboration, la communication et la coordination. Il y en a un quatrième, il y a quatre mots en fait. Et quand vous lisez la littérature d'aujourd'hui, ils vont vous dire que le leadership touche l'édification, la collaboration, la coordination et la communication. Et c'est toutes des choses qui étaient dans la parole de Dieu, qui ça a été écrit il y a à peu près 2000 ans. La parole de Dieu, elle est riche dans toutes les sphères de la vie. Et ce qu'il a remarqué, que John Maxwell, par rapport à ce passage, par rapport à cette lettre, il va dire que les conflits, c'est naturel. Il ne faut pas se surprendre qu'il y a des conflits. Parce que ils surviennent à cause des différences humaines. Et il faut voir le conflit comme étant neutre. En d'autres mots, il faut prendre une position en disant, bon, plutôt que de voir de trouver d'abord le coupable, voir en quoi ce conflit-là peut être constructif ou destructeur en soi. Et donc, ce qu'il dit dans sa sagesse, dans la sagesse qu'il a reçue, c'est d'avoir un recul. Et c'est ce que Paul essaie de faire dans cette lettre-là. Il est en train de dire à Philémon, « Philémon, faut que tu aies un recul de la situation. » Et il faut voir comme les conflits sont normaux. Et puis, c'est normal d'avoir des conflits, ça nous arrive à tous. Et donc, cette lettre nous enseigne sur les relations saines et sur le leadership dans l'Église. Il va nous faire part d'une situation, Paul va nous faire part d'une situation problématique de l'époque qui va impliquer l'Église, puis il va nous donner un coup d'œil sur ce que c'est une confrontation en santé. Et donc, John Maxwell va nous dire que ce sont les bons leaders qui initient la confrontation. Et ici, c'est pas qu'ils initient le conflit, mais les bons leaders vont savoir comment aller chercher les gens de chaque parti ou les gens en conflit pour les unir ensemble pour arriver à trouver une solution, un consensus ou régler le conflit. Ça demande du doigté, ça demande de l'expérience. C'est pour ça que gérer un conflit relève du leadership. Puis, c'est toujours avec des gens qui ont des qualités relationnelles évidentes que les conflits vont se régler le mieux. Et c'est pour ça que Paul va user beaucoup de doigté là-dedans. Cette lettre de Paul, elle est adressée à Apphia, Archip, à Philémon évidemment, et à l'Église. Et on va voir que Archip, la plupart des commentateurs pensent que c'est celui qui a remplacé le pasteur de l'époque, Épaphras, parce que dans la lettre aux Colossiens, comme on avait vu la dernière fois, il y avait deux lettres qui étaient envoyées. Eh bien, la lettre aux Colossiens et la lettre à Philémon. Dans Colossiens 4:17, ça dit « Dites à Archippe, Veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. Et donc, Paul va corriger Archippe là-dessus. Mais il ne le mentionne pas dans la lettre à Philémon. Il s'adresse à Archippe également parce qu'il veut l'impliquer dans la gestion du conflit. Il veut que le pasteur soit au courant de sa démarche, de comment ils vont fonctionner, parce qu'il sait que sur le terrain, c'est lui qui va devoir, après ça, relationnellement, s'impliquer dans la gestion du conflit. Et donc, comment Paul a procédé pour faire digérer le morceau à notre ami Philémon? Eh bien, il va se responsabiliser en tant que demandeur. Puis de quelle façon? On le voit au verset 17, par la substitution. Il dit, « Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. » Et il est en train de lui dire, là, « Tu vois, Philémon, je veux que tu le vois comme un égal. Je veux que tu le vois comme... Je veux plus que tu le vois comme un esclave. Je veux que tu changes ta perspective. » Et vous savez une chose, c'est ça qui est le plus difficile à nous, les êtres humains, de changer notre perspective. Quand le Seigneur nous place dans une situation, quand, par exemple, des jeunes vont se marier, sont habitués. Vous savez, il y a eu des chicanes. À un moment donné, j'ai assisté à une conférence, puis il y avait plein de pasteurs dans cette conférence, plein de missionnaires à travers le monde. Puis là, il y avait un pasteur qui prêchait avec tellement de fougue, puis avec tellement d'énergie. Puis à un moment donné, il dit, savez-vous, ça a été quoi le sujet de chicane entre ma femme puis moi? C'était le sens que le papier de toilette était placé. Est-ce que tu dois le placer par en haut ou par en bas? Si tu as des jeunes enfants, c'est par en bas, parce qu'ils ne tireraient pas dessus comme ça pour tout le dérouler. En tout cas, juste pour te dire que des fois, juste te dire, il peut avoir une chicane pour quelque chose qui est anodine. Mais ici, c'était plus qu'un rouleau de papier de toilette. Mais je sais que ces sujets-là, ça peut vous amener au bout de vos rouleaux. Fait qu'on passe à d'autres choses. Et on voit par ce principe-là, si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. On parle ici du principe de la substitution. Et également de l'imputation. On va voir ensemble c'est quoi dans quelques instants. Ça nous montre aussi, on peut faire un parallèle, c'est que je suis reçu de Dieu le Père dans sa présence comme si c'était Jésus-Christ. Je suis reçu à cause du sang de Christ, à cause que j'ai accepté que Jésus-Christ a pris ma condamnation, a pris ma culpabilité, a pris toute ma rébellion contre lui. J'ai accepté que Jésus-Christ porte le péché à ma place, porte ma condamnation. Je suis reçu malgré mes imperfections, malgré mes manques, malgré que je pêche continuellement. Je suis reçu comme Jésus-Christ est reçu. Et ça, ça doit nous donner de l'assurance devant Dieu. Non pas de s'en servir pour faire n'importe quoi, vivre n'importe comment, puis dire, bon, mais c'est pas grave, je suis reçu de Dieu de toute façon. Non, c'est pour avoir cette attitude d'action de grâce et de reconnaissance, parce que ça l'a coûté à Jésus, cet accès-là. Et il y a un prix précieux. Je comme disais à quelqu'un à un moment donné, je disais, c'est pas parce que j'ai une assurance qui couvre, par exemple, ma voiture de tous les bords. Si moi je fonce dans quelqu'un, si quelqu'un me fonce dedans, puis remise à neuf, même si je ferai pas exprès pour foncer dans un poteau, pour de toute façon être assuré, je vais aller réclamer. Mais je sais que par contre, j'ai accès à cette grâce. Et ça m'enlève un fardeau, non pas pour continuer à vivre dans le mal, mais pour apprendre à découvrir qui est mon Père dans sa présence. Et on voit ce principe-là de ce qu'on est reçu comme Jésus-Christ dans Hébreux chapitre 10, les versets 8 à 20. Et puis, on voit spécialement quand on lit les versets 10, 14 et 18, j'aurais pas le temps de tout lire le passage, mais on voit au verset 10, il dit, c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Le fait qu'il qu'il est venu volontairement donner son corps, donner sa vie. Et lorsqu'on a, le Saint-Esprit nous a ouvert les yeux, puis on a découvert que c'était moi qui aurais dû être là. C'est moi qui aurais dû ressembler à ça. C'est moi qui devrais être condamné parce que j'ai offensé Dieu. Et j'ai accepté qu'il a pris ma place, qu'il m'a substitué. Et c'est pour ça qu'au verset 14 dans Hébreux chapitre 10, ça va nous dire, « En effet, par une seule offrande, celle de Jésus-Christ, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. » En d'autres mots, ceux qu'il rend saints, ça veut dire ceux qui sont reçus comme lui dans sa présence, parce que Dieu est saint. Être saint, ça voulait dire pour les Hébreux, être mis à part, être réservé pour une fonction spécifique. Et nous, il nous réserve pour une mission sur cette terre et il nous réserve pour être auprès de lui dans l'éternité. Et quand je dis nous, ses enfants légitimes. Au verset 18, il va dire, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. C'est pourquoi on peut s'approcher, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il va dire au chapitre 2, au chapitre 4, on peut s'approcher avec une assurance auprès du trône de la grâce. Parce qu'on est reçu comme Jésus-Christ est reçu à cause de son sang. Et de son corps qui a été livré à la croix. Et donc, comment il a procédé pour faire digérer le morceau? En étant prêt à assumer les frais. Et c'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, on reçoit de Dieu plein de choses qu'on mérite pas. D'avoir la santé, c'est pas un bien, un dû. De pouvoir manger trois fois par jour, c'est pas un dû. De pouvoir changer de linge à chaque jour, c'est pas un dû. D'avoir un toit, c'est pas un dû. D'avoir une maison, c'est pas un dû. Toutes ces choses-là sont une grâce, une faveur de Dieu. Mais pour recevoir ces faveurs de la part de Dieu, ça l'a coûté un prix. Christ a payé. Et c'est pour ça qu'on a le repas du Seigneur ou la Sainte Cène pour se rappeler le coût de cet évangile qui est si merveilleux, le coût de cette bonne nouvelle qui est si extraordinaire. Et c'est pour ça que lui était prêt à assumer les frais au verset 18. Et s'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Jésus-Christ pourrait dire ça, la même chose de nous, on a un avocat auprès du Père. Quand l'ennemi vient nous accuser, on peut dire, je porte ça sur le compte de Christ. Je reconnais que ma faute, je reconnais que c'est mal, je reconnais que j'ai offensé Dieu, je reconnais que j'ai blessé des gens. Mais maintenant, je veux te rendre grâce que je peux retourner devant toi parce que ma faute, elle a été payée. Et après ça, me laisser instruire par lui pour m'amener à ce que ça soit corrigé dans ma vie, à ce que je puisse grandir, à ce que je puisse croître, à ce que je puisse maintenant marcher en nouveauté de vie. Et c'est ici ce qu'on appelle, comme je disais tout à l'heure, le principe de l'imputation. Imputation, c'est un mot théologique qui peut faire peur en disant, bon, il sort ses gros mots, aujourd'hui, il veut montrer qu'il y a de l'air savant. Mais c'est un mot qu'il y a dans la parole de Dieu et on doit apprendre à l'apprivoiser puis l'aborder. Ça veut tout simplement dire que c'est porté dans ton compte, c'est transféré dans ton compte. Je peux t'imputer une dette, donc, ou je peux t'imputer justement un dépôt. Je peux porter à ton compte un montant d'argent. Et dans la Bible, il y a trois imputations. Il y a l'imputation du péché qui a été transféré à Adam. Donc, quand Adam a transgressé, il a désobéi à Dieu, eh bien, il a été séparé de Dieu et donc il a été reconnu par Dieu comme étant pécheur parce que séparé de la gloire de Dieu. Et toute la race humaine qui a découlé d'Adam porte dans son ADN cette séparation avec Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin d'être racheté par un substitut, Jésus-Christ. Et ce qui a été porté, mais la bonne nouvelle, c'est que le péché d'Adam a été transféré à Christ, a été imputé à Christ dans 2 Corinthiens chapitre 5. Sa faute, notre faute a été portée sur lui. Elle lui a été imputée, elle a été transférée. Et c'est pour ça que ceux qui ont mis leur foi dans cette bonne nouvelle en disant, maintenant je peux être sauvé, je peux être dégagé de la condamnation qui pèse sur moi, parce que j'ai reconnu que c'est lui qui a payé ma faute. Et il y a une autre imputation, c'est celle de la justice. C'est un verdict qui a fait en sorte que nous est transféré, maintenant que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sa justice. Maintenant, je peux me présenter devant lui comme un juste, même si ma vie de tous les jours ne le manifeste pas entièrement, mais je me présente devant lui comme un juste, justement pour être nourri, pour apprendre de lui et apprendre à marcher dans ses voies, apprendre à marcher selon sa pensée. Et c'est pour ça que Paul, il dit, lui, l'apôtre Paul est imprégné de cet évangile-là. Lui, l'apôtre Paul, il fait pas juste écrire des lettres en disant Jésus-Christ, justement, Adam a péché, Jésus-Christ a pris le péché d'Adam, et maintenant, quand on met notre foi dans ce que Jésus-Christ a pris notre faute, eh bien, il nous transfère sa justice, ça fait de nous un saint. Il fait pas juste l'enseigner, sa vie le démontre. Il est prêt à payer pour qu'un autre puisse revenir en leur relation. L'évangile influence tous les segments de sa vie. Mais il est rendu un vieillard. Ça prend toute une vie pour que notre vie soit transformée, puis qu'on aborde les gens, non pas en fonction du mal qu'ils nous font, mais en fonction de ce que, comme je suis reçu de Dieu, malgré mes fautes, malgré mes manquements, je vais apprendre à accueillir les autres qui m'agressent. C'est tout un défi, ça. C'est le grand défi de la vie chrétienne. Mais c'est ça que Jésus dit. Ils vous reconnaîtront par l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Dans Jean 13, 34 et 35, Jean 13, 34 et 35, c'est l'œuvre, c'est l'effet de l'Évangile, et ça, c'est inimitable. C'est inimitable. L'apôtre Paul, c'était pas quelque chose qu'il avait appris comme une leçon de l'école du dimanche, mais ça transpirait dans sa vie. Hey, si tu dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Je vais l'assumer. Il n'a pas dit, quand tu vas le voir prophétisant, donne-y une volée. Il mérite bien. Et sûrement qu'il méritait. Mais sa perspective était sur une autre dimension. Et c'est pour ça qu'au verset 19, Paul va s'impliquer lui-même. Verset 19, moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai. Il était sérieux. Il est en train de dire, là, c'est comme s'il était en train de signer un contrat. Il dit, je l'écris de ma propre main. C'est comme s'il dit, regarde, là, je m'engage. Et n'oubliez pas, cette lettre devait être lue par Archip, Aphia et toute l'Église. Il s'engageait publiquement en disant, écoute, calcule le montant, je vais le payer. Il te doit quelque chose, il t'a volé, tu veux qu'il te rembourse, tu veux que... M'en dis pas à lui, demande-le à moi. Et dans notre salut, c'est la même chose. Notre ennemi nous accuse, il trouve ça injuste que des pécheurs soient gratuitement sauvés par Jésus-Christ. Et quand on est accusé, Jésus-Christ lui rappelle, il a accepté que j'aille payer pour lui. C'est une excellente nouvelle, c'est une tellement bonne nouvelle. Puis malheureusement, moi, savez-vous ce qui me brise le cœur, honnêtement? C'est que des gens nous accusent de prêcher la condamnation. Des gens nous accusent, oh, vous êtes toujours contre le péché, puis vous voyez le mal partout. Non, mais ce qu'on est en train de dire, le mal, le péché existe, il est là, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a payé pour ça. C'est pas le mal qu'on met en lumière, c'est pas la fin du message. C'est juste pour réaliser qu'on a besoin d'être sauvé, et il est là le sauveur. C'est pas pour être condamné davantage, c'est pour être libéré. Malheureusement, moi, ça me brise le cœur. Tellement de gens ne comprennent pas ça. Ça demande la puissance du Saint-Esprit pour le faire. C'est le fruit de l'œuvre accomplie à la croix, de vouloir payer pour l'autre, de substituer. Et on voit que Paul, dans 1 Timothée 2, 5 et 6, communique cet ADN-là à son disciple Timothée. En effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, à qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Il veut communiquer cet ADN-là à Timothée, son disciple, pour que Timothée puisse l'enseigner à des hommes capables qui vont être capables ensuite de l'enseigner à d'autres. C'est l'héritage de l'enseignement de Paul ici. Et c'est pour ça que comment il a procédé pour faire digérer le morceau, en mettant en lumière son interlocuteur. Il met dans la peau d'Onésime, il veut qu'il se substitue conformément à l'Évangile. Moi, Paul, verset 19, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai, sans vouloir te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi, c'est toi-même. Beaucoup de commentateurs pensent que c'est par l'apôtre Paul que Philémon, oui, est né de nouveau, a été saisi par le message de l'Évangile, a été sauvé. En d'autres mots, il est en train de te dire, hey, si on ne s'était pas rencontrés, toi puis moi, là, tu ne serais pas né de nouveau aujourd'hui. Tu ne pourrais pas me garantir que tu vas dans l'éternité avec Dieu. C'est une grâce que tu as été sauvé, puis ton esclave a été sauvé. Maintenant, c'est ton frère, c'est ton égal. Ça nous montre aussi que même si je suis sans faute dans un litige, par exemple, je rencontre un frère qui, je sais pas moi, qui a triché dans ses impôts, qui n'a pas fait toutes ses déclarations, même si moi, je ne triche pas dans mes impôts, je ne peux pas le pointer du doigt parce que je vais être trouvé fautif dans d'autres domaines. Dans le sens... Je peux l'enseigner, je peux lui montrer c'est quoi la bonne voie, mais pas avoir cette attitude-là de condescendance en disant hey, « Moi, je suis parvenu, puis toi, tu es un moins que rien. » Paul va dire aux Galates de reprendre les frères avec douceur. Et c'est pas toujours facile. Moi, en tout cas, mon ami au téléphone, je l'ai pas repris avec douceur. Et c'est quelque chose que le Seigneur doit m'apprendre à grandir. Philémon n'a pas volé, mais il doit sa vie à l'apôtre Paul. Puis en tant que pécheur, je dois ma vie à Jésus-Christ. Je ne suis pas sauvé parce que je suis bon, parce que je suis attachant. Je suis sauvé tout simplement parce que je me souviendrai toujours, pour moi, la date est imprimée, le 14 janvier 1984. J'ai reçu une invitation, c'était clair dans ma tête, c'était... Si je meurs ce soir, je ne vais pas dans la présence de Dieu. C'était clair. C'était pas comme je me sentais coupable parce que quelqu'un m'a fait sentir coupable. C'était d'une clarté, d'une limpidité. C'était clair que pour moi, c'était le rendez-vous. Peut-être que tu as connu ce rendez-vous. Peut-être que tu es sur Internet. Je te demande, continue à écouter ce message-là. Persévère jusqu'à la fin. C'est une bonne nouvelle qu'on a. Mais tu es mieux de connaître ce rendez-vous-là sur terre que d'arriver dans l'éternité puis que le Seigneur te dise « il est trop tard, il y en avait un rendez-vous puis tu le fuis. » Parce que la bonne nouvelle, ce n'est pas que le Seigneur veut te faire sentir mal, c'est qu'il veut te sauver. Il veut dire que c'est lui le seul chemin, la vérité et la vie. Et donc, qu'est-ce que Paul a fait pour faire digérer le morceau? Eh bien, il a formulé sa demande de façon claire et concise, verset 20. « Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Jésus-Christ. » Là, il a besoin d'être rassuré. Et vous le savez, la dernière fois qu'on s'est parlé, on a vu au verset 7 que qu'est-ce qui caractérisait Philémon? Eh bien, nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Et c'était un homme, comme je disais au début, qui était capable d'amener les gens à se reposer. Et là, Paul a besoin d'être rassuré, tranquillisé. Il dit, maintenant, en d'autres mots, rassure-moi, confirme-moi que tu vas accueillir Onésime, celui qui avait été ton esclave, comme un égal. Et donc, comment il a réussi à faire digérer le morceau? Eh bien, en valorisant la vérité. Pas en le flattant, mais il va lui rappeler sa force. Au verset 21, « C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que je te demande. » Il a mis en valeur son caractère. Il a écrit, c'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même plus que je te... Il savait que Philémon, s'il lâchait prise, s'il capitulait devant Dieu, son cœur allait déborder. Mais qu'est-ce qui a ouvert la porte du cœur? Moi, ce que je crois, c'est exactement ce que Paul avait dit préalablement. En disant, oublie pas que tu te dois toi-même à moi. En d'autres mots, toi aussi, tu as été sauvé par peu grâce. Tu as été sauvé par peu grâce, puis tu es riche aujourd'hui. Lui a été sauvé par peu grâce, puis il est pauvre aujourd'hui. Mais vous êtes des frères et sœurs rachetés par le même sang, par le même sacrifice. Et il va terminer sa lettre sur une bonne note. Il va le faire sentir à Philémon, dire, « OK, je veux te faire passer quelque chose, je sais que ça ne sera pas facile, Philémon. Je suis en train de corriger quelque chose, je suis en train d'amener ta perspective à changer d'optique. Mais je veux que tu saches, Philémon, que tu fais partie de l'équipe, tu fais partie du team, tu fais partie de la gang. » Verset 23, il va dire, « Epaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. » Donc, il est en train de dire, « Hey, les autres gars de la gang, ils te saluent. Ils sont avec toi, Philémon. On n'est pas en train de te mépriser. Hey, es-tu pas possible, ce Philémon-là? » Mais qui sont ces hommes-là? Très rapidement. Epaphras, c'est un bon enseignant, c'est un fidèle serviteur de Christ, c'est un intercesseur. On voit ça dans Colossiens 1, 6 et 7, Colossiens 1, 6 et 7, puis Colossiens 4, 12. C'était un homme de Dieu qui enseignait, qui priait, et puis on voit que c'est un homme qui priait pour que les gens tiennent ferme puis qu'ils soient disposés à faire la volonté de Dieu. C'était un combattant. Il connaissait l'enjeu spirituel. C'était un homme de Dieu. Aristarque, Marc et Justus, savez-vous quoi? Dans Colossiens 4, 10, c'est dit qu'ils ont été un grand encouragement pour l'apôtre Paul. Les leaders spirituels ont besoin des gens autour d'eux qui vont les encourager. Vous savez, j'ai connu, un moment donné, j'étais allé en mission, deux semaines à Paris pour évangéliser là-bas dans les métros, tout ça. Puis c'était vraiment spécial. Et à un moment donné, le pasteur, il dit, savez-vous, parce que sur les cinq, on était trois gars puis deux filles. Puis sur les cinq, il y avait deux comiques. Et puis moi, je faisais partie de ces deux-là. Puis il dit, savez-vous, vous avez une caractéristique, vous avez quelque chose, une caractéristique assez spéciale parce qu'il dit, beaucoup de missionnaires, quand ils partent en équipe, ils se cherchent des gens comiques parce que ça leur fait du bien. Il y a tellement de pression, le dépaysement. Mais d'avoir des gens un peu fous autour d'eux, c'est bon. Puis quand il y a quelqu'un de comique, eh bien, ils sont très attirants. Mais lui, eh bien, ces gars-là, c'était pas nécessairement des comiques, mais c'était des gens qui procuraient un grand encouragement. On pourrait traduire aussi, ils étaient comme des genres de médicaments pour l'apôtre Paul. C'était quasiment une thérapie d'être avec eux. Ça leur faisait du bien. Puis il y a des gens dans cette salle, puis il y a des gens qui nous écoutent sur la toile, qui peut-être vous êtes, c'est ça votre vocation, de faire sentir les gens autour de vous comme étant des gens qui se sentent bien. Et Démas, malheureusement, il ne le cite pas en exemple dans sa lettre aux Colossiens, mais il ne mentionne rien de négatif, il fait juste le nommer. Mais on voit que 5 ans plus tard, quand il écrit sa deuxième lettre à Timothée, on voit que cet homme-là a pris des mauvaises décisions. Dans 2 Timothée 4, 9 et 10, on voit que Démas a abandonné Paul. Il est parti pour Thessalonique par amour pour le monde présent. Et donc, on voyait déjà que 5 ans auparavant, Paul l'a nommé, mais il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait déjà comme une fente qui était ouverte. Puis la fente, elle s'est élargie. Et malheureusement, il était animé du principe que j'appelle de 2 Chroniques 25. 2 Chroniques 25, versets 1 et 2. Le Saint-Esprit nous parle de Amatia, qui est un roi qui est venu à l'âge de 25 ans. Puis savez-vous, au verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui ne lui était pas attaché sans réserve. En d'autres mots, c'est un peu comme dans la parabole de l'enfant prodigue, dans Luc 15, un peu comme le fils aîné. Il fait ce que Dieu demande. Il fait ce que Dieu lui demande. Mais pas avec un cœur débordant, pas avec un cœur sans réserve, pas avec un... Il n'est plus dans cette joie-là d'être synthonisé, d'être connecté avec Dieu. Et ça, 5 ans plus tard, malheureusement, Démas s'est éloigné. Et c'est toujours triste quand un frère ou une sœur qu'on a apprécié, qu'on a vu rempli de zèle, à un moment donné, tranquillement s'éteindre, puis à un moment donné, abandonner les voies du Seigneur. Moi, ça me brise toujours le cœur. Il va finir avec sa signature. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Il débute toutes ses lettres avec que la grâce et la paix, et il la termine avec que la grâce soit avec vous, avec quelques variantes près, évidemment, là, mais c'est la signature de l'apôtre Paul. Il est tellement imprégné de la grâce de Dieu. Il se sait lui-même l'objet de la grâce de Dieu. En d'autres mots, il sait qu'il n'est pas à la hauteur des attentes de Dieu. Et quand on sait ça, là, ça nous donne une attitude qui est remplie de douceur quand c'est le temps de corriger un frère. Et c'est pour ça, en conclusion, eh bien, Paul, pour faire digérer le morceau à cet homme blessé, il a tenu compte de qui était devant lui. Il a opté pour une approche cohérente avec sa théologie de l'œuvre accomplie, de la grâce de Dieu, de l'Évangile. Et il a été un imitateur de Jésus. Il a fait preuve de doigté. Et puis, un bon exemple de Jésus-Christ dans cette situation-là, c'est dans Luc 7, 41 à 47, quand il va rencontrer un prêtre de l'époque, Simon, puis il va lui raconter une histoire. Il va dire, il y a un créancier qui avait 2 débiteurs. L'un, il devait 500 pièces et l'autre 50. Comme il n'y avait pas de quoi rembourser, il dit, lequel des deux va être le plus reconnaissant ou l'aimera le plus? Puis Simon a dit, ben celui qui a remis la plus grosse somme, il dit, t'as bien jugé. Et c'est pour ça que devant la croix, lorsqu'on réalise, quand je réalise devant la croix que je suis fautif, eh bien, ça me rappelle que si j'ai un frère à corriger ou une sœur ou quelqu'un à communiquer la pensée de Dieu parce que la personne, de la façon qu'elle vit, la façon qu'elle parle, ne glorifie pas Dieu, eh bien, le défi, c'est toujours d'aborder avec douceur puis dans un esprit, justement, avec un doigté, avec une diplomatie, comme l'apôtre Paul le fait. Ça demande parfois plus de préparation, plus de temps, plus de prière. Ça demande parfois même de composer avec notre propre réalité, parce que le psaume 37 va dire que souvent quand on veut accuser quelqu'un, il y a une convoitise secrète, que ça met en lumière nos propres motifs. Et c'est pour ça qu'on doit le faire, on doit se reprendre les uns les autres. La parole de Dieu nous le demande. On a un exemple ici de le faire avec doigté, et c'est tout un défi. Et moi, j'ai à apprendre, j'ai à grandir dans ce domaine-là. Et donc, Paul a contribué à ce qu'un esclave puisse être réintégré comme un égal. Et c'est exactement la mission de Jésus-Christ. De réintégrer des pécheurs, des fautifs, des gens hostiles à Dieu pour pouvoir être reçus comme Jésus-Christ est reçu dans la présence de Dieu. Goûter son amour. Et entrer en mission avec lui pour propager cette bonne nouvelle, former des disciples et être une source d'inspiration pour ce monde qui a besoin d'être tranquillisé. J'invite les musiciens à s'avancer parce que l'histoire de Paul, Philémon et Onésime illustre une bonne nouvelle, celle que Jésus-Christ a payée pour nous. Chacun de nous, on peut être esclave dépendant de certaines fautes. Il y a des fautes qu'on peut arriver. Je ne sais pas si vous... Il y a des saisons dans ma vie où est-ce que je réalise, je dis, hey, Seigneur, j'ai besoin de grandir dans tel domaine. Puis je viens revoir le Seigneur, je dis, hey, tu dois être tanné de me revoir encore avec cette faute-là. Et Et c'est pour ça que la croix devient le lieu de rencontre pour être restauré et pour retrouver cette richesse de relation. Et j'aimerais ça qu'on puisse se recueillir quelques instants pour voir devant Dieu, d'une manière secrète et privée, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Recueillons-nous, s'il vous plaît. Seigneur, tu veux réintégrer des esclaves du mal, des dépendants, des rebelles, des gens hostiles à ton plan, pour sauver, pour leur faire découvrir combien tu es bon, combien tu es grand. Et c'est pour ça, si quelqu'un n'a jamais reçu Jésus-Christ comme sauveur, jamais reconnu qu'il est le seul chemin pour venir à Dieu, puisqu'il est Dieu lui-même, fait homme, fait être humain. Il n'est pas venu pour te condamner, il est venu pour porter ta condamnation. Il est venu pour payer pour tes fautes, pour que maintenant tu puisses te laisser instruire par lui, grandir. Et qu'à un moment donné, tu découvres que c'est une excellente, une bonne nouvelle. Tu peux le faire maintenant, tu peux dire, hey, c'est vrai Seigneur, j'ai cherché par tous les moyens pour réussir ma vie, mais dans le fond, ce que j'ai besoin, c'est de toi. Tu es le seul qui peut me sauver. Tu es le seul qui peut prendre mes fautes. Tu es le seul qui a payé mes fautes. Tu es le seul qui me réconcilie au Père. Tu peux le faire maintenant. Reconnais que tu es fautif devant Dieu, que tu es hostile à Dieu, que tu es rebelle à Dieu. Mais maintenant que tu veux te laisser sauver par lui pour marcher en nouveauté de vie, te laisser instruire par lui, puis être un reflet de sa personne de plus en plus. Pour ceux qui l'ont déjà reçu, eh bien, on peut juste exprimer notre reconnaissance pour cette croix. Non pas seulement pour la journée où est-ce que le Seigneur nous a sauvés, mais également pour chaque jour, parce qu'à chaque fois qu'on passe à côté de la volonté de Dieu, à chaque fois que je passe à côté de toi, à chaque fois que je manque, Seigneur, et que ça me fait du bien de me rappeler que tu as payé pour mes fautes. Et que ça me fait du bien, Seigneur. Ton plan est tellement bon et tellement parfait. Merci au grand Dieu. Et merci d'élever de plus en plus de Philémon dans cette Église et partout à travers le monde, pour la gloire de Christ. Amen.